13h. C'est dans l'actu sur Leur FM.
Et voilà, nous y sommes à midi et 7 minutes très précisément pour votre rendez-vous de l'actualité. Aujourd'hui, gros focus sur le Grand-Duché du Luxembourg et ses relations avec les voisins frontaliers. Alors, avenir du territoire, activité, coopération, télétravail, comment voit-on la métropole transfrontalière du Luxembourg et surtout, quel visage et quelles ambitions aura-t-il d'ici 30 ans? Autant de sujets que l'on va tenter de développer avec notre invité dans votre rendez-vous de la mi-journée.
Midi 13h, c'est dans l'actu sur Leur FM.
Et pour parler de tous ces sujets très pointus, mais qui vont vous intéresser, on va essayer de vous les décortiquer. Vincent Hein, économiste à la Fondation IDEA qui se situe au Grand-Duché du Luxembourg. Bonjour Vincent.
Bonjour Marco, bonjour à tous.
Bienvenue sur l'antenne de Leur FM, Vincent. On l'a compris, beaucoup de choses concernant l'actualité du Luxembourg et surtout l'avenir frontalier avec notre voisin qu'on aime tant. Métropole transfrontalière du Luxembourg, c'est déjà un premier volet que l'on va ouvrir avec vous. C'est un projet, cette métropole transfrontalière du Luxembourg, une aire fonctionnelle. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui concrètement lorsqu'on évoque ce terme de métropole transfrontalière?
Alors Marco, ben vous faites bien de rappeler ce terme. L'idée d'une métropole, ça veut pas dire que Luxembourg c'est Singapour.
Oui, pas avoir, c'est ça exactement. Faut le préciser.
En fait, pourquoi on utilise le terme de métropole? En fait, c'est plus par rapport à la dynamique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tout se développe. Et en fait, la vitesse à laquelle tout se développe, c'est quelque chose qui se caractérise comme d'autres métropoles ailleurs en Europe, par exemple. C'est-à-dire qu'on crée énormément d'emplois dans un centre très attractif, très compétitif, où on a des problèmes de foncier, de logement, de salaire qui augmente, et on a une périphérie qui se rattache à ce centre, et cette périphérie, elle est toujours plus dépendante.
Quand vous parlez de périphérie, vous dites qui concrètement, pour qu'on ait une belle image?
La périphérie.
Que tout le monde comprenne bien.
En fait, ce territoire, cette métropole transfrontalière du Luxembourg, on pourrait l'appeler Grand Luxembourg. On a choisi de pas l'appeler Grand Luxembourg parce que bon, le Luxembourg c'est quand même un pays, donc il y a des frontières nationales qu'il faut pas non plus nier.
Oui.
Ce Grand Luxembourg, ce territoire, c'est à peu près, on va dire 30 kilomètres autour de la frontière. On descend un peu plus bas en France jusqu'à Metz. Mmh. Et c'est un territoire où aujourd'hui il y a autour de 2 millions d'habitants, on va dire, hein, quand même, c'est pas rien. Et c'est un territoire qui est complètement interdépendant. C'est-à-dire que quand vous êtes à Thionville et que vous réfléchissez à votre développement, vous pouvez pas ne pas parler du développement du Luxembourg. Et inversement, quand vous réfléchissez à l'avenir...
L'un est dépendant de l'autre, finalement.
Oui, bien sûr, c'est une interdépendance et cette relation, elle est double. Et en fait, ce territoire, c'est un territoire que vos auditeurs connaissent bien. Ils le vivent tous les jours.
Et
je
oui.
pense qu'il y a des frontaliers, mais même des gens qui sont pas frontaliers. Vous allez au Luxembourg consommer, vous voyez des Luxembourg qui viennent consommer en France, à Metz, par exemple. Donc en fait, il y a une espèce de cohérence géographique sur cette région métropolitaine, qui est plus petite que la grande région, mais qui est beaucoup plus grande que le Luxembourg.
Alors justement, vous citiez Vincent la grande région. On avait fait un focus sur cette grande région avec Roger Kezel il y a 2 semaines. Il est à votre place dans cette émission de la mi-journée. Et il y a une vraie différence entre la grande région et ce fameux projet de métropole transfrontalière du Luxembourg et ce grand Luxembourg, voilà, comme vous l'aviez nommé. Est-ce qu'on peut rapidement donner la différence?
Oui, alors la grande région, c'est une coopération entre la Wallonie, alors ça va presque jusqu'à Bruxelles en fait,
hein, voilà.
La Sarre, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine, l'ancienne
ouais.
région Lorraine, et le Luxembourg. Et ça, c'est un territoire vraiment très très grand. Hein, et c'est un territoire dans lequel en fait, il y a des, enfin c'est une institution, la grande région, qui a été créée dans les années 90, en 1995, et où ces régions et ces pays, où ces länders cherchent à mettre en place des coopérations, à lever des barrières, à faciliter la vie des gens. Mais c'est vraiment un espace très grand, avec beaucoup de gens très différents. Vous avez des régions, des États, etc. Et donc, du coup, les coopérations, elles sont assez lentes. Elles sont réelles, elles sont parfois peu visibles, mais elles sont très, très lentes. Là, ce qui se passe, c'est qu'au milieu de cette grande région, vous avez un espèce de réacteur économique qu'est le Luxembourg. Et ce réacteur économique, il entraîne avec lui tout un territoire, mais il n'entraîne pas toute la grande région, évidemment.
Vous avez une locomotive et certains wagons, en fait, finalement.
Oui, et y a d'autres plus petites locomotives, Metz, Nancy, Charleroi, etc.
Mais qui sont basées sur le même axe avec un intérêt commun.
Oui, bien sûr, c'est ça. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est une espèce d'archipel comme ça, avec des centres plus ou moins importants. Et il y en a un, quand même, il faut le dire, qui est beaucoup plus fort économiquement. Et quand on regarde les dynamiques, le nombre d'emplois qui sont créés et les augmentations, tous les effets que ça a sur le trafic, l'environnement, la qualité de de vie et sur les territoires voisins, c'est vraiment autour du Luxembourg. Et donc nous, ce qu'on dit, cette métropole, elle n'existe pas en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune...
C'est un projet en fait, c'est dans l'idée.
C'est un concept qu'on a développé et c'est quelque chose qui aujourd'hui est un petit peu un cavalier sans tête. C'est un territoire qui existe dans les faits, que les gens vivent et connaissent bien. Mais si vous voulez, il n'y a aucune politique, aucun projet pour dire voilà où on veut que dans 10, 20, 30 ans, on aille pour régler les problèmes et pour accompagner le développement de ce territoire.
Et justement, dans 30 ans, ça fait partie de l'objet de votre étude qui va être publiée prochainement concernant la fondation IDEA dans laquelle vous êtes économiste, Vincent Hein. Le Luxembourg dans 30 ans, ça risque de ressembler à quoi ?
Alors évidemment, moi, j'ai pas de boule de cristal.
Mais on a des chiffres, on a des tendances.
Oui, voilà. Alors ouais. Nous, ce qu'on a fait très très rapidement, c'est que on a regardé comment le Luxembourg s'est développé ces 30 dernières années. Mmh. Et on s'est dit comment il va falloir s'organiser si jamais on a le bonheur que le pays continue à se développer de la même manière, avec le même rythme, dans les 30 années qui viennent.
Mais là, on va avoir un petit souci, parce que le nombre de frontaliers, Vincent, va être exponentiel, il va y avoir de la demande au niveau du travail, mais on va pas pouvoir pousser les murs. Alors comment ça va s'articuler, tout ça ?
Ouais, très clairement, le message qu'on va faire passer dans cette étude, c'est que si la croissance, elle a pris tout le monde de vitesse, hein, clairement, oui. On s'y attendait pas, elle a été possible ces 30 dernières années, c'est parce qu'il y avait des réserves. Hein, vraisemblablement, il y avait des logements disponibles au Luxembourg qui ont été plus ou moins remplis. Il y avait des routes qui étaient trop grandes. Il y avait de la marge sur les voies de chemin de fer. Il y avait des frontaliers en nombre qui étaient disponibles. Il y avait pas mal de chômage quand même, beaucoup plus qu'aujourd'hui dans les régions, en Lorraine, en Wallonie. Et toutes ces réserves-là, elles se sont toutes une à une épuisées. Et donc du coup, effectivement, c'est pas impossible de continuer dans les 30 ans qui viennent à croître, mais ça devra être fait sur un modèle complètement différent. Et un des points sur lesquels il faudra changer les choses, c'est qu'il faudra coopérer différemment avec les régions voisines.
Effectivement, et on va continuer d'en parler avec vous d'ici quelques instants. Vincent Hein, je rappelle que vous êtes économiste à la fondation IDEA au Grand-Duché du Luxembourg. On fait, bien sûr, vous l'aurez compris, un grand focus sur le pays voisin et ses relations avec les amis voisins frontaliers. Vous restez bien avec nous sur leur FM, à tout de suite.
Midi 13h, c'est dans l'actu sur leur FM.
Et jusqu'à 13h, on est avec notre invité aujourd'hui, Vincent Hein, économiste à la Fondation IDEA au Luxembourg, pour parler de l'avenir du Grand-Duché et ses relations avec les voisins frontaliers. Alors, on a parlé déjà de plusieurs projets, de plusieurs facettes du Grand-Duché, notamment le visage qu'il aurait éventuellement d'ici une trentaine d'années. Vincent, on va parler à présent de la coopération transfrontalière, qui est un dossier également très important. Et quand on parle de coopération transfrontalière, on parle forcément de mobilité et d'aménagement du territoire.
Effectivement, la mobilité, l'aménagement du territoire, c'est ce qui concerne au quotidien les gens. Hein.
On a, et ça, c'est un dossier épineux, Vincent. Il ne faut pas se voiler la face, ça pique.
Oui, effectivement, c'est un dossier compliqué, mais si on prend un peu de recul par rapport aux évolutions, on se dit qu'on n'aura pas le choix que de faire beaucoup mieux et beaucoup plus à l'avenir. Et c'est dans l'intérêt direct et du Luxembourg et des régions frontalières d'avancer mieux là.
De manière chiffrée aujourd'hui, Vincent, plus de 110 000 personnes transitent entre les pays frontaliers et le Grand-Duché du Luxembourg. Mais on va rappeler que d'ici 5 à 10 ans, le chiffre va naturellement s'amplifier parce que le marché du travail continue de se développer. Ça va amener plus de monde sur le rail, sur la route et pour se déplacer tout simplement.
Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai regardé les chiffres ce matin. C'est 120 000 maintenant qui passent de la Lorraine au Luxembourg tous les jours, plus ou moins. Et si on regarde les évolutions, en gros, sur les 5 dernières années, ça fait 25 000 de plus. Et si on divise ça par le nombre de semaines, ça veut dire que tous les lundis matins, vous avez 100 personnes de plus.
100 nouveaux frontaliers.
100 nouveaux frontaliers en plus. Donc, c'est pas forcément les mêmes, hein. Il y en a qui quittent leur travail, il y en a d'autres. Mais tous les lundis matins, chaque semaine, 100 personnes de plus.
Et qu'est-ce qu'on fait pour harmoniser tout ça, essayer de trouver une coopération, éviter, on va dire, entre guillemets, un blackout? Parce qu'à un moment donné, ça va plus rentrer. Non, comment on fait?
C'est vrai que si on prolonge les tendances, évidemment, il va y avoir des limites qui vont être atteintes. Clairement, l'autoroute est déjà plus que saturée, on le voit. Les capacités ferroviaires apparemment sont vraiment...
Elles sont limitées aussi.
Vraiment limitées. On a même en plus, si je comprends bien, des problèmes au niveau du matériel roulant, où il y a un peu moins de trains qu'avant. Ça, c'est aussi quelque chose qui est alarmant. C'est-à-dire que comment on a pu arriver dans une situation où aujourd'hui, on a des trains qui sont plus courts, où il y a moins de place, par rapport à il y a 3 ans avant le Covid, il y a vraiment des problèmes. Et c'est un problème, évidemment, pour les autorités qui doivent gérer ça ici. Donc, pour la France, hein, c'est la région Grand Est, mais c'est un problème aussi pour le Luxembourg. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, en tant que représentant luxembourgeois, nous, on dit au gouvernement, il faut absolument anticiper, parce que sinon, le blackout, c'est un mot un peu fort, mais on pourrait
éventuellement avoir un gros souci. Est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi la tendance inverse, c'est-à-dire que le trafic est tellement saturé qu'il soit sur la route, sur le rail, dans les transports, c'est très compliqué. Est-ce qu'on pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire les frontaliers vont généralement travailler au Luxembourg pour des salaires, on va pas se voler la face, plus attractif notamment que sur le Grand Est ou même la Lorraine à plus petite échelle. Est-ce qu'à un moment donné on pourrait se dire voilà, j'en ai assez, c'est plus possible, c'est un entonnoir, on n'y arrive plus, il y a de la demande de travail au Luxembourg mais finalement on va rester chez nous pour avoir un cadre de vie plus sympathique, on va y arriver à cette situation?
C'est évident, ça. Individuellement, il y a probablement déjà des cas, des gens qui ont pris cette décision. Hein. Dans les médias, vous en parlez assez régulièrement.
On en parle
pour l'instant,
ouais.
Il y a toujours plus de monde qui arrive que de gens qui partent.
Mais face à l'offre du travail, à l'offre du marché du travail au Luxembourg, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Ah bah c'est clair qu'il va falloir offrir des conditions de mobilité bien meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui, et c'est absolument vital pour les entreprises luxembourgeoises, parce qu'aujourd'hui les frontaliers c'est un salarié sur deux, et si on prend juste le secteur privé c'est plus que la moitié des effectifs.
Et Luxembourg a besoin de cette main d'œuvre, donc aujourd'hui il est j'ai pas envie de dire lorraino dépendant mais presque.
Le Luxembourg est grande région dépendant, ouais, Europe dépendant et même hors Europe. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui viennent aussi vivre au Luxembourg, et c'est ce qui fait que les prix du logement augmentent, hein, qui viennent de l'Union européenne et de plus en plus de pays hors UE, parce qu'on cherche des profils bien spécifiques, bien précis, et des fois on les trouve hors UE. Donc oui, vraiment, le dilemme du Luxembourg, c'est créer des conditions d'accueil pour une population toujours plus nombreuse et s'arranger avec les régions voisines pour aménager le territoire de manière plus cohérente. Donc ce qu'il faut faire, c'est investir, c'est clair. Il faut quand on voit que la ligne entre Bettembourg et Luxembourg, qui est en train d'être doublée actuellement de chemin de fer, ça a pris presque 10 ans pour faire grosso modo 10 km de voie de chemin de fer. On se dit, voilà, maintenant quand on regarde les chiffres.
On sera plus là pour voir la suite.
Si, on sera là, j'espère. Et on peut probablement mieux faire il faudra mieux faire, notamment, évidemment, entre Thionville et Luxembourg. C'est la prochaine étape. Il faut la
préparer. Avec notamment la grande concertation sur la 31 et l'élargissement qui a été lancé, qui dit, comme vous le disiez, accueil des frontaliers sur le sol luxembourgeois pour travailler. Ça passe aussi par la formation, Vincent Hein, et là aussi, c'est un levier important.
Oui, clairement, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a 5 ou 10 ans. Il y a 5 ou 10 ans, on avait des personnes en Lorraine qui étaient quand même assez nombreuses à chercher du travail, et il y avait une forme d'équilibrage qui se faisait à l'échelle locale où ça arrangeait plus ou moins tout le monde. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des métiers en tension. C'est le cas des infirmières, par exemple. Oui. On commence à avoir des hôpitaux ici en Lorraine qui reprochent au Grand-Duché de recruter leur personnel et qui n'arrivent pas à faire face. Ça, c'est le cas aussi dans certains métiers plus tendus, comme dans l'artisanat, des électriciens, des choses de ce type-là. Et très clairement, il faut faire bouger les gens plus facilement pour que ça tienne, mais il va falloir aussi avoir une stratégie de former plus. Hein. Clairement, on a aujourd'hui encore, quand on regarde dans le bassin du Grand Luxembourg, on a une population qui n'est encore pas sur le marché du travail. Il y a une marge, on peut probablement former, mais ça, il faut le faire ensemble.
Comment on explique qu'il y a ce déficit en termes de formation? Comment on explique ça? C'est quoi la raison?
Ça, c'est quelque chose qui est pas propre à la région, en fait. C'est quelque chose qu'on constate, par exemple, quand on regarde l'économie française, on constate qu'on a des taux de chômage encore assez élevés. Ouais. Et malgré tout, des difficultés de recrutement. C'est parce que les métiers changent, il y a un problème d'attractivité de certains
métiers. Les jeunes ont envie de bosser aussi, c'est peut-être ça, c'est un des problèmes. Est-ce qu'ils ont envie?
Alors, je sais que c'est un thème à la mode, dont on parle énormément. Moi, je me place du point de vue de l'économiste. Donc, nous, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on se base sur des études concrètes. C'est-à-dire qu'on veut pas prendre position comme ça sur un sentiment. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'études qui disent formellement que les gens sont moins prêts à travailler. Comme je le disais, on entend beaucoup parler de ça, mais on a quand même encore aujourd'hui au Luxembourg toujours plus de gens qui arrivent que de gens qui partent. Donc ça ne veut pas dire que les gens travaillent dans de bonnes conditions et qu'ils sont plus heureux qu'ils l'étaient auparavant, mais quelque part, ils y trouvent toujours leur compte. Ce que je veux dire, c'est que il va falloir réfléchir à tout ça en même temps, c'est-à-dire transformer, enfin requalifier des gens qui étaient formés sur des métiers qui ont évolué, où il y a on a besoin de plus de connaissances techniques dans le digital ou autre, rendre les métiers qui sont traditionnellement moins attractifs plus attractifs. Là aussi, on peut utiliser des innovations technologiques pour rendre des métiers moins pénibles. Il y a ce genre de... Au Luxembourg, je pense que les salaires restent encore attractifs. Oui. Donc on a moins ce problème-là, et malgré tout, on a quand même des difficultés à recruter. Donc c'est qu'il y a quelque part quand même aussi un problème d'offre de travail. L'offre de travail, c'est les gens qui en fait ont besoin ou envie de travailler. Et très clairement, moi je pense que il y a encore de la marge, il y a encore dans la région des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. La question est de savoir, est-ce qu'ils arrivent avec les bonnes compétences, les bonnes formations? Et s'il en manque dans certains domaines, il faut se mettre d'accord pour former ensemble ces gens.
Ouais. Former ensemble, effectivement, trouver un consensus pour que la formation soit globale et permette à des personnes qui doivent se mettre à niveau de pouvoir travailler en corrélation avec les deux pays si besoin. Vincent, vous restez bien avec nous parce qu'on n'a pas fini de parler du travail. On va parler très précisément de télétravail. C'est la grande question qui concerne les frontaliers et il va y avoir un changement prévu à partir de janvier 2023. On va vous expliquer tout dans un instant et tous les détails à tout de suite.
Midi 13h, c'est dans l'actu sur l'ORFM.
Jusqu'à 13h, on parle de l'actualité du Grand-Duché du Luxembourg, mais plus précisément de l'actualité transfrontalière avec Vincent Hein, économiste à la Fondation IDEA au Grand-Duché. Vincent, on va ouvrir tout de suite, en troisième partie, ce dossier concernant le télétravail. Il peut dynamiser les villes voisines du Grand-Duché, mais il représente peut-être aussi un manque à gagner au Luxembourg, ce fameux télétravail. Quel est le meilleur modèle à utiliser aujourd'hui?
Il n'y a pas de modèle parfait, comme toujours. Simplement, le télétravail, effectivement, c'est quelque chose qui, comme vous le dites, va redistribuer les cartes. C'est-à-dire que si vous faites du télétravail 2 jours par semaine à Thionville, par exemple, le midi, vous allez consommer à Thionville et c'est quelque chose que vous n'aurez pas consommé à Luxembourg. Donc ça, c'est une redistribution de revenus qui se fait et quand c'est pris à grande échelle, ça peut quand même représenter des montants importants. Ça se fait aussi à l'intérieur du Luxembourg. Quelqu'un qui télétravaille à Dudelange, à Diekirch, il va plus consommer à Dudelange ou à Diekirch qu'au Kirchberg. Oui. Donc le télétravail, ça redessine un peu les cartes géographiques. Après, évidemment, c'est aussi un avantage parce que ça rend les métiers au Luxembourg plus attractifs parce que vous économisez un petit peu de temps de transport. Donc évidemment, ça permet de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. Par contre, ça pose aussi tout un tas de questions sur la manière dont fonctionnent les entreprises en termes de management, comment vous intégrez des nouveaux en télétravail, etc. Donc il y a vraiment énormément de chamboulements. Et si c'est quelque chose qui est amené à durer, ce qui je pense est le cas...
C'est parti pour. Hein,
parce que le Covid a vraiment accéléré les choses et surtout a montré que c'était possible techniquement.
Tout à fait.
Et donc du coup, il va falloir se poser beaucoup de questions. La différence qu'il y a entre Luxembourg, une autre ville comme Paris par exemple, c'est que vous avez des frontières entre là où vous travaillez et là où vous habitez. Et donc du coup, ces frontières des États, elles posent des problèmes en matière de fiscalité et de sécurité sociale, mais aussi d'autres problèmes, même pour les entreprises.
Hein. Ouais. On va y revenir d'ailleurs sur le cadre fiscal dans un instant. Ouais.
Et donc du coup, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir avancer parce que le phénomène est arrivé, mais le cadre n'est pas forcément très adapté.
Ouais, justement, parlons de cadre. En termes de fiscalité, on va rappeler les règles élémentaires que tout le monde déjà doit connaître ou doit vraiment imprégner aujourd'hui.
Alors, pour les frontaliers qui vivent en France et qui travaillent au Luxembourg, il y a, on va dire, du point de vue du salarié, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est la fiscalité. Et ça, on en a beaucoup parlé, les fameux seuils de 19, 29 et puis bientôt 34 jours. C'est-à-dire que si vous êtes frontalier, que vous vivez à Thionville et que vous travaillez à Luxembourg, si vous faites plus que 34 jours, donc à partir du 1er janvier, ce sera 34.
Oui.
Si vous faites plus que 34 jours de télétravail ou de mission ailleurs qu'au Luxembourg, vous allez être imposé sur tous les jours que vous n'avez pas presté au Luxembourg, donc sur les 35, 36, etc. jours, vous allez être imposé, enfin vos revenus vont être imposés en France. Mais ils vont être désimposés, entre guillemets, au Luxembourg. C'est-à-dire que le Luxembourg va vous rembourser les impôts qui ont été prélevés sur ces jours-là et vous allez devoir les payer en France. Ça a posé tout un tas de problèmes parce que la France avait poser des conditions administratives qui gênaient les entreprises.
Eh oui, il y avait certaines entreprises qui s'étaient prononcées pour, d'autres clairement contre. On n'arrivait pas à trouver le bon consensus.
Oui, il y avait une grosse incertitude sur les impacts juridiques et surtout sur la gestion que ça devait représenter, parce qu'en France, il y a le prélèvement à la source maintenant. Et donc, du coup, ce que disait le fisc en France, c'est qu'il faut prélever tous les mois l'impôt sur les jours de télétravail. Donc, c'est impossible pour un patron de savoir de savoir si son salarié va dépasser les 34 jours ou pas. Ouais. Donc, ça aurait été vraiment très compliqué. Ça a été réglé dans le projet de loi.
J'allais venir à le projet de loi de finances 2023 hein, qui va être profitable aux télétravailleurs frontaliers. C'est le long dossier, le long travail mené par la députée de la Moselle Isabelle Roche qui était à votre place il y a deux mois de cela pour nous parler de l'avancée de ce projet. Donc rendez-vous en janvier, Vincent, et tout a l'air harmonisé, c'est bien ça aujourd'hui.
Oui, alors cette incertitude, on va dire, administrative et ce casse-tête, il va être a priori, parce que ça, c'est quand même un changement.
Le bouclier devrait être levé. Hein.
Mais il devrait être levé à partir du 1er janvier, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris les choses, vous, à la fin de l'année, quand vous ferez votre déclaration de revenus en France, comme vous le faites déjà aujourd'hui, les frontaliers, vous allez déclarer le nombre de jours que vous avez télétravaillé, enfin que vous n'avez pas presté au Luxembourg, et là, la France va calculer, va dire, voilà, vous devez tant d'impôts, et votre employeur va devoir en même temps faire la même chose vis-à-vis des impôts au Luxembourg et ça sera restitué en fait. Donc il n'y aura pas de non-double imposition. Vous paierez pour certains cas peut-être même moins d'impôts parce qu'il faut le savoir, les impôts sur le revenu au Luxembourg sont quand même assez élevés et très progressifs. C'est-à-dire que quand vous vous éloignez du salaire social minimum, très vite vous êtes quand même assez hautement imposé, parfois plus qu'en France. Donc il pourrait y avoir peut-être des bonnes surprises. Il y aura peut-être aussi des mauvaises surprises parce qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même une situation nouvelle. Il faut voir maintenant comment les bureaux des impôts en France vont gérer ça. C'est quand même une incertitude, mais sur le papier, le problème risque d'être réglé. Le problème, c'est qu'il y a un autre seuil qui est moins connu, mais qui est beaucoup plus contraignant.
Et quel est-il alors ?
Le seuil de la sécurité sociale.
Oui.
En fait, il y a une règle en Europe qui a été mise en place au début des années 2000. Vous vous souvenez peut-être de cette époque, on débattait beaucoup des problèmes des travailleurs détachés. Vous savez, vous aviez des travailleurs détachés qui vivaient dans des pays de l'Est parfois, qui avaient des contrats de travail en intérim sur des projets en France ou ailleurs et qui avaient des sociétés d'intérim qui utilisaient d'autres pays pour payer moins de cotisations sociales. Pour limiter ces abus, on a mis en place une règle qui fait que pour être affilié à la sécurité sociale d'un pays, donc pour les frontaliers, pour être affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, il faut prester au moins 75% du temps de travail au Luxembourg. Donc par symétrie, ça veut dire 25% maximum pour le télétravail. Mmh. Si vous dépassez les 25%, c'est en gros 50-55 jours par an.
Oui.
Ça fait moins de 2 jours par semaine quand même. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui.
Si vous dépassez ce seuil, là, vous allez être dans une situation très compliquée parce que vous n'aurez plus le droit d'être affilié à la sécurité sociale au Luxembourg.
À la CNS, oui.
Donc ça veut dire que votre patron va payer beaucoup plus de charges, donc votre net va baisser. Vous allez payer beaucoup plus de charges, votre net va baisser. Ça veut dire que vous cotisez plus pour la retraite luxembourgeoise, donc vous n'avez plus droit à la retraite luxembourgeoise. Tout un tas de prestations sociales, allocations familiales, etc., ne sont plus ouvertes si vous dépassez ce seuil. Donc ce qui partait d'une bonne idée au niveau de l'Union européenne est quelque chose qui pose un problème dans les régions frontalières et surtout entre la France et le Luxembourg.
Est-ce qu'on a réellement pris en compte la situation transfrontalière et assez délicate hein, que l'on a ici ? Est-ce que ça a été pris en compte réellement ça ?
Pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte. Il y a des discussions au niveau européen. Cette règle, elle a été suspendue temporairement jusqu'à la fin de l'année. Et on a appris cette semaine que cette règle, elle va encore être suspendue les 6 premiers mois de l'année prochaine. Donc jusqu'au 30 juin de l'année prochaine, normalement.
D'accord.
On ne devra pas respecter ce seuil des 25%. Mais après, on ne sait pas. Donc l'idée, c'est de le réformer.
Tout peut bouger, j'ai envie de dire, dans les 6 prochains mois. On peut avoir une tendance A, une tendance B en 6 mois de temps, c'est ça ?
Ben, en fait, oui, voilà, il y a des discussions. Évidemment, le Luxembourg essaye de chercher une solution parce qu'il a bien conscience que ça pose problème pour les employeurs et les salariés. Le problème, c'est que quand vous discutez avec d'autres États, ils n'ont pas forcément le même point de vue parce que vous avez des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont des frontaliers sortants, mais aussi des frontaliers entrants sur d'autres frontières. La France a des frontaliers sortants avec d'autres pays. Donc il va vraiment falloir essayer de trouver un cadre qui permettrait de dire dans les régions frontalières, si on veut pouvoir développer le télétravail, parce que sinon ce serait une discrimination, vous pourriez télétravailler dans un job à Paris, mais pas dans un job à Luxembourg. Donc là il y a un problème d'équité aussi au niveau européen. Donc il faudrait tendre vers un statut du travailleur frontalier dans ce règlement européen, où on pourrait dire, comme le proposent certains, qu'on garantit au moins 2 jours de télétravail par semaine, donc 40%, on passerait de 25 à 40%. Mais ça, ça doit être négocié au niveau de l'Europe et ça prend du temps.
Affaire à suivre en tout cas au courant de l'année 2023, comme vous venez de l'entendre. Vous restez bien avec nous, Vincent Hain, il nous reste encore quelques minutes pour parler de l'actualité de nos frontières et bien sûr du Grand-Duché du Luxembourg. On se retrouve juste après Zazie, c'est Letty Chine sur leur FM, à tout de suite.
Midi 13h, c'est dans l'actu sur leur FM.
Et depuis midi, on fait ce grand focus sur le Grand-Duché du Luxembourg et ses relations avec les voisins frontaliers. Notre invité encore durant quelques minutes, Vincent Hein, économiste à la Fondation IDEA au Grand-Duché. Le temps est passé vite, Vincent. On a essayé de développer un maximum sur toutes les problématiques transfrontalières, mais c'est vrai qu'il y en a énormément et on pourrait passer des jours et des jours à évoquer cette actualité. En tout cas, on a évoqué la coopération transfrontalière, les futurs projets pour le Luxembourg, le télétravail. Aujourd'hui, Vincent, quel regard, vous qui êtes économiste dans cette fondation luxembourgeoise, à quoi, selon vous, va ressembler le Grand-Duché de demain et comment va s'articuler la coopération transfrontalière dans les prochaines années?
Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je
vous avez peut-être un regard, une vision.
Je peux dire que nous, en tout cas, la vision qu'on essaye de défendre, c'est que on est maintenant, enfin les gens l'ont compris, on est dans une région où on vit de manière complètement dépendante les uns des autres, et il faut vraiment maintenant que les décideurs politiques des deux côtés de la frontière, enfin plutôt des quatre côtés de la frontière, puisque vous avez plusieurs frontières, s'entendent et accouchent d'un projet et disent voilà, on va accompagner la poursuite du développement, parce qu'actuellement, du côté luxembourgeois, c'est compliqué ces débats, parce que les politiques luxembourgeois voient bien que la population luxembourgeoise, qui est de plus en plus petite dans cet ensemble, c'est quelque chose qu'elle ne souhaite pas non plus développer outre mesure, mais il faut bien que tout le monde comprenne qu'on est liés les uns aux autres, et que avoir un projet où on limite les effets négatifs de la croissance voudrait dire que on revient en arrière, c'est-à-dire voudrait dire qu'on accompagne une baisse de l'attractivité du Luxembourg. Et je ne sais pas quelle politique sensée aurait envie de dire on va faire en sorte d'être moins attractif. C'est vraiment quelque chose qui me semble dystopique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut se préparer à l'avenir. C'est possible. Maintenant, si on est 1 million d'habitants au Luxembourg, c'est pas non plus Singapour sur Alzette. 1 million d'habitants au Luxembourg, ça donne des densités de population comme la Belgique, comme la Sarre. C'est tout à fait faisable.
On va dire à taille humaine, quoi.
Voilà, à taille humaine, mais il faut le faire correctement. Il faut arrêter les villages champignons où les gens habitent loin des...
Les villages dortoirs, et voilà, ouais.
Il faut aménager le territoire pour densifier les villes, mais de manière propre, de manière verte, de manière agréable. On sait faire. On a plein d'exemples ailleurs en Europe. On a aussi des exemples en matière de coopération qui sont beaucoup plus avancés ailleurs. Dans le Grand Genève, par exemple, ils ont inauguré il y a 3 ans maintenant un nouveau RER transfrontalier. Donc c'est quelque chose dont on rêve.
C'est peut-être la clé, hein. C'est peut-être la clé. Ouais.
Bien sûr, il faut simplement y mettre les moyens. Faut pas mentir aux gens, leur promettant qu'on continuera à être aussi dynamique sur le plan économique, donc à pouvoir offrir autant de prestations sociales, autant de redistribution, si on se donne pas les moyens de prévoir d'accompagner la croissance, et ça passe par de la coopération.
La coopération, voilà, qui sera certainement la clé pour une réussite complète et transfrontalière, bien sûr, présentement, mais aussi à l'avenir. Merci beaucoup, Vincent Hein. On rappelle que vous êtes économiste à la Fondation IDEA au Luxembourg. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Avec grand plaisir et à très bientôt sur l'antenne de l'Heure FM. La suite, c'est avec Myriam. On passe par la Lorraine comme chaque jour. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dès demain. Belle journée.